le magazine des Nations Unies.
L'apport de la MONUSCO au processus électoral ne sera pas que logistique, il doit être aussi entendu comme un acte éminemment politique dans le cadre des bons offices. Une déclaration du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Hervé Lassous, était en mission de travail la semaine dernière en RDC. C'est la grande actualité de ce magazine. $1 million américains de la Suède pour un projet d'appui aux radios communautaires en République démocratique du Congo. Un projet piloté par l'UNESCO. Dans ce magazine, un expert du bureau UNESCO RDC pour nous en parler. 3000 ménages de déplacés de Walendu Bindi en territoire d'Irumu, bénéficiaires d'une assistance humanitaire du PAM, Programme Alimentaire Mondial. C'est dans le cadre de l'opération Bon d'achat. Mais l'insécurité observée dans la contrée est susceptible de perturber cette opération. La chef du bureau du PAM en Ituri est notre invitée.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Quel rôle va jouer la MONUSCO dans le processus électoral 2015-2016 de la RDC? Hervé Lassous, secrétaire général de l'ONU chargé des opérations du maintien de la paix, a donné la réponse pendant son séjour en RDC. Jeudi dernier, il était l'invité de l'émission Parole aux auditeurs de Radio Capi, où il a répondu en direct aux questions de nombreux auditeurs. Pour l'adjoint de Ban Ki-moon, en plus de l'appui logistique au processus électoral dans lequel s'est engagée la RDC, la MONUSCO a un rôle très politique à jouer dans le cadre des bons offices pour créer les meilleures conditions d'aboutissement de ce processus. Jean-Pierre Elali Ikoko.
Plusieurs voix s'élèvent ces derniers temps pour réclamer un dialogue comme préalable à la tenue des élections en République démocratique du Congo. Dans un passé récent, certains partis de l'opposition ont même déposé un mémoire à la MONUSCO demandant instamment à la mission onusienne de s'impliquer en offrant ses bons offices. À ce sujet, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, invité de l'émission Parole aux auditeurs jeudi dernier, a été précis. L'apport de la MONUSCO dans le processus électoral n'est pas que logistique et technique, il est aussi éminemment politique. Hervé Lassous.
Notre rôle ne peut pas être un rôle simplement de pourvoyeur de moyens de transport pour acheminer les urnes. On le fait dans la mesure des moyens, mais c'est pas ça le centre de la question. Le centre de la question, c'est effectivement notre intervention au titre des bons offices dans un acte éminemment politique qui est au cœur de la vie politique du pays. Eh bien, je crois que nous devons contribuer par tous les moyens à ce qu'il y ait cet environnement apaisé, ces conditions transparentes pour que la majorité des Congolais puissent s'exprimer dans le respect des règles démocratiques.
La MONUSCO, elle, s'est dit disposée à offrir ses bons offices, mais avec la collaboration des partis en présence. Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO.
Nous sommes à la disposition, effectivement, des partis politiques éventuellement. Et M. Kobler, le représentant spécial du secrétaire général en RDC, a dit très clairement ce dialogue ne peut se faire qu'avec l'accord des deux parties autour de cette question du dialogue politique pour que la MONUSCO puisse s'engager, effectivement, pour faire la facilitation de cet éventuel dialogue. Nous restons en contact avec les différentes parties, tant avec les membres de la majorité présidentielle que de l'opposition. Et une fois que nous allons avoir une concordance de vues autour de cette question du dialogue politique, cela va être sans doute activé par M. Martin Kobler, le moment voulu, en coopération avec l'ensemble des parties impliquées dans ce dialogue.
L'Union européenne n'est pas en reste. Lundi 20 avril, par la bouche de son ambassadeur en RDC, l'Union européenne donc recommande les dialogues entre les partis en présence pour, dit-elle, contribuer à la réussite du processus électoral, et ceci dans le respect des échéances fixées par la Constitution.
Une autre actualité qui a marqué la semaine a trait à la situation humanitaire au Katanga. Plus de 8500 incidents de protection rapportés au premier trimestre 2015, mais il faut en plus $2 million américains à mobiliser pour prendre en charge les survivantes de violences sexuelles et sexistes. N'est-ce pas Jean-Pierre Elali Koko?
Oui Thérèse, le Katanga manque cruellement de fonds pour venir en assistance des victimes des violences sexuelles et sexistes. En majorité, ce sont des déplacés répertoriés au cours des 3 premiers mois dans plusieurs territoires de la province. Écoutez à ce sujet les propos de Sylvestre Ntumba Mudingayi, chargé de communication à Otia. C'était mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies.
La province du Katanga souffre d'un manque de financement pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Début avril, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a reçu, via le Fonds humanitaire d'urgence, près de 59 000 dollars américains pour prendre en charge 250 survivantes de violences sexuelles dans les territoires de Manonwe Mitwaba. Le fonds reçu par l'UNICEF ne représente qu'un infime pourcentage de 2 millions de dollars dont les acteurs ont besoin pour continuer les activités en cours.
Et pour Otia, le bureau de coordination des affaires humanitaires, il faut agir vite car selon lui, la lutte contre les violences sexuelles semble être le cadet des soucis.
La lutte contre les violences sexuelles demeure l'un des parents pauvres de l'aide humanitaire en République démocratique du Congo. Il importe quand même cependant de souligner qu'en 2014, les acteurs engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes avaient bénéficié d'une enveloppe de 800 000 dollars américains.
Sachez que plus de 600 cas de violences sexuelles ont été répertoriés pour le seul premier trimestre 2015 dans les territoires de Nyunzu, Malembankulu, Mitwaba et Pweto. Et selon la division provinciale du genre et famille, le viol représente 65% des cas de violences sexuelles dans cette province.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La deuxième phase du projet de renforcement des radios locales en technologie de l'information et de la communication a été lancée le 17 avril dernier à Kinshasa. De 4, lors de la première phase, le nombre des radios communautaires bénéficiaires de ce projet est passé à 10. Joseph Potopoto, expert en communication au bureau de l'UNESCO RDC à Kinshasa, nous dit en quoi consiste ce projet financé par le gouvernement suédois. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Joseph Potopoto, bonjour.
Bonjour. Monsieur Honoré, bonjour aux auditeurs de la Radio Capi.
L'UNESCO est impliqué dans un projet de renforcement des radios locales en technologie de l'information et de la communication. La deuxième phase de ce projet a été lancée le 17 avril dernier à Kinshasa. D'abord, en quoi consiste le projet lui-même d'une manière globale?
Le projet consiste à l'amélioration de la qualité des programmations et des diffusions des radios locales. Nous essayons, dans la mesure du possible, d'intégrer l'usage des technologies de l'information et de la communication. Nous travaillons aussi dans le sens de renforcer les capacités des radios en matière de traitement local de l'information sur les questions de développement telles que l'agriculture, la santé, l'environnement. Et nous voulons à ce que les radios puissent engager ou insuffler la participation de personnes défavorisées dans les discussions sur des sujets liés à leur quotidien et aussi sur les questions de leur développement. Donc, à travers le TIC, nous voulons une radio qui diffuse de manière interactive, de façon que la population qui suit cette radio puisse participer effectivement à la production des contenus radiophoniques.
Et alors, quels sont les objectifs de ce projet?
Les objectifs sont notamment faire en sorte que les radios deviennent un fournisseur de services sociaux. Vous savez, les dialogues entre les acteurs sociaux et les radios ne peuvent être reconnus que si la radio permet aux auditeurs d'élargir leurs connaissances sur la pratique de la radio en tant que partenaire de développement et fournisseur d'un accès de services. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est par rapport à la radio elle-même. Nous cherchons à ce que chaque radio soit à mesure de diffuser des informations qui parviennent de toute sa zone de couverture. Et pour cela, nous appuyons les radios à mettre en place un réseau de correspondants. Question de diversifier les sources d'informations. Le troisième élément, c'est l'utilisation des TIC comme appui à la diffusion locale. Et là, nous fournissons aux radios des logiciels qui leur permettent notamment d'améliorer les traitements du son, l'interactivité avec le public, la gestion des contacts et aussi être à mesure de faire le monitoring. Donc nous voulons que les radios à travers les TIC soient à mesure de mener des enquêtes, des sondages d'opinion sur des sujets qui intéressent la population. Et le quatrième objectif est lié à la viabilité des radios Et c'est là où nous travaillons avec ces radios dans le sens de renforcer leur capacité en termes de management, en termes de planification et de gestion financière. Et là, les radios sont à mesure aujourd'hui de produire des plans financiers de leur développement et aussi de mettre en place un plan marketing pour la création de revenus.
Donc, le projet a lancé sa deuxième phase. Mais par rapport à ses objectifs, est-ce qu'on peut faire le bilan de la première phase ?
Le bilan de la première phase, nous avons travaillé avec 4 radios locales en RDC. La radio Bangu de Kimpese dans le Bas-Congo, la radio communautaire de Mwanda dans le Bas-Congo également, la radio Kimvuka na Lutondo à Kenge dans le Bandundu et la radio Deo Gracias à Kasumbalesa. Le bilan est très positif dans la mesure où toutes ces radios ont pratiquement atteint les résultats recherchés à travers ces 4 objectifs. Ces radios ont mis en place des réseaux de correspondants, ils ont maîtrisé l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quand vous y arrivez, vous voyez que ces radios ont fait beaucoup de progrès en termes de création de revenus, ce qui leur a même permis d'acquérir de nouveaux équipements et d'améliorer aussi leurs conditions de travail en termes de local, en termes de primes des agents qui travaillent là-dedans. Donc les résultats sont très positifs.
C'est ce qui vous a encouragé à entamer la deuxième phase ?
Absolument. La deuxième phase, c'est une phase d'extension. Nous étions à 4 radios, nous avions appelé ça une phase pilote. Maintenant, nous avons étendu le projet à 6 nouvelles radios. Nous serons présents dans la province orientale avec la radio Canal Révélation qui est à Bounia. Nous serons dans le Nord Kivu avec la radio Dorika FM à Rutshuru et la radio Mungano à Beni. Nous serons à nouveau dans le Katanga, cette fois-ci à Kolwezi avec la radio Manika. Nous serons dans le Bandundu avec la radio Madimba à Gungu et enfin à l'Équateur avec la radio Lobiko. Donc cette deuxième phase n'exclut pas les premières radios, dont nous sommes maintenant à 10. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que nous faisons ces formations, chaque fois que nous venons en appui aux radios qui sont partenaires directs, nous essayons d'associer aussi les autres radios qui travaillent dans les environs, ce qui pourrait nous amener pratiquement à 30 radios d'une manière ou d'une autre.
Alors en dehors de l'extension, vous êtes parti de 4 à 10. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à la première phase ?
Oui. Par rapport à la première phase, il y a des thématiques nouvelles qui se sont ajoutées. Vous savez, nous sommes dans la période électorale. Nous pensons aussi renforcer la capacité des radios locales en termes de couverture des élections. Il y a aussi l'approche genre qui est une priorité de l'UNESCO et même des Nations Unies. Nous essaierons aussi d'intégrer dans les radios la prise en compte du genre à travers les indicateurs des égalités des genres dans les médias que l'UNESCO a développé avec les concours de ses experts. Il y aura également une thématique sur les violences basées sur le genre. C'est un problème assez récurrent dans nos provinces et nous voulons que les radios, les médias en général, soient des partenaires privilégiés qui vont nous accompagner pour que ces violences puissent être bannies dans nos vies de tous les jours au niveau de ces radios. Et comme autre nouveauté, il y a des nouveaux logiciels que nous avons acquis et qui vont être aussi intégrés dans la radiodiffusion et aussi dans la communication entre les radios et les auditeurs, dans les travaux de l'édition, dans les travaux de conservation même des archives de la radio. Donc il y aura des nouveaux logiciels. Je crois que la deuxième phase sera encore beaucoup plus intéressante. Et nous profitons aussi du micro de Radio Capi pour faire un plaidoyer dans ce sens. Nous lançons un appel à tous les bailleurs qui interviennent dans les secteurs de médias et pourquoi pas au gouvernement congolais aussi. L'aide à la presse peut passer aussi sous forme de projets comme ça qui pourraient être bénéfiques directement aux radios communautaires plutôt que de leur accorder des aides en termes de cash financier. L'UNESCO est capable de développer un projet dans ce sens-là avec le gouvernement si jamais cela a été pris en compte au niveau des instances dirigeantes du secteur des médias en République démocratique du Congo.
Puisque vous avez fait un appel aux bailleurs, qui finance ce projet et à quelle hauteur ?
Le projet est financé par la Suède dans le cadre de sa politique d'aide au développement à travers son agence d'aide au développement international, les SIDA. La Suède finance ce projet à la hauteur de près de 30 millions de couronnes suédoises, ce qui représente pas moins de 10 à 15 millions de dollars. Et c'est dans au moins 11 pays d'Afrique. Et la RDC y est bénéficiaire pour un montant de 1 million de dollars américains, répartis en deux phases. La première phase, c'était de 2012 à 2015, et la deuxième phase, de 2015 à 2017. Donc, nous profitons de cette occasion pour remercier la Suède, et aussi, pourquoi pas, demander aux autres bailleurs d'emboîter les pas à la Suède, parce que la RDC, c'est un pays très vaste. L'accès de la population à l'information est assuré pour la grande partie par les radios locales, Voilà l'importance que nous accordons à ces radios comme des relais d'information, aussi des acteurs de développement sur terrain.
Joseph Potopoto, merci.
Merci beaucoup.
Nous ouvrons cette page de nouvelles en bref par la Cour pénale internationale, CPI, où est annoncé le début du procès Bosco Ntaganda pour le mois de juillet prochain. Pas de date précise pour l'instant. Au cours d'une conférence de mise en état le 22 avril dernier, la chambre de première instance 5 de la CPI a rendu une décision orale reprogrammant l'ouverture de ce procès à la deuxième ou à la troisième semaine de juillet 2015. À la MONUSCO, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour les opérations dans l'Est et de l'État de droit, M. David Gressley, arrivé le 18 avril dernier, avait pris immédiatement ses fonctions. Information annoncée mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. David Gressley apporte une expérience de plus de 20 ans au sein des systèmes onusiens où il a notamment travaillé comme représentant spécial adjoint au secrétaire général et coordonnateur humanitaire dans le cadre de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Enfin, toujours à la MONUSCO, bientôt un bâtiment moderne pour l'état-major de la police nationale congolaise dans la plaine de Ruzizi à Luvungi et un commissariat de police nationale congolaise de Sangué. Les travaux de ces ouvrages ont été lancés le 17 avril 2015 dans le cadre des projets à impact rapide de la MONUSCO. Il s'agit ici d'un projet initié par UNPOL, la police de la MONUSCO, pour un coût global estimé à environ 100 000 dollars américains.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Plus de 3000 ménages de déplacés de guerre viennent de bénéficier d'une assistance en vivres dans la chefferie de Walendubindi, en territoire d'Irumu, une action humanitaire signée par le Programme Alimentaire Mondial, PAM. Mais selon certains observateurs, cette assistance aurait suscité la convoitise des bandits armés qui s'attaqueraient aux bénéficiaires. Quelle a été l'importance de cette assistance et comment le PAM réagit-il aux allégations d'insécurité? Judith Hullard, chef du PAM en Ituri, répond au micro de Martial Kiza.
Judith Hullard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du bureau du programme alimentaire mondial à Ituri. Vous venez de clôturer avec la première phase des modalités d'assistance à vivre dans le sud du Rumu sur le moyen des cash transferts. Est-ce qu'on peut avoir d'abord l'idée des nombres des déplacés qui ont bénéficié de ces modes d'assistance à vivre?
Vous vous rappelez que suite à la situation de l'insécurité qui a régné dans le sud du Rumu à partir du mois de septembre 2013, le PAM a pu mener une assistance en faveur de 120 000 ménages en vivres. Et c'est une assistance qui a duré pendant 9 mois. Et suite à cela, on a eu à faire une évaluation qui a démontré qu'il y avait quelques bénéficiaires qui étaient de retour dans leur milieu d'origine. Et sur cette base, on s'était basé sur, pas le statut des bénéficiaires, mais sur leur vulnérabilité en insécurité alimentaire. Ah, c'est comme ça, après une évaluation de 120 000 personnes, on est arrivé à 80 000 personnes qu'on assistait en vivre. Vous vous rappelez aussi que le sud du Rumu était en phase 3, ce que signifie l'urgence, dans le cadre classification IPC. Et étant donné aussi que les ménages n'ont pas pu accéder à leur champ pendant une année et demie, la zone est encore retombée en phase 4 de la sécurité alimentaire selon le IPC classification du décembre 2014. C'est ainsi, avec le concours du PROFUND, on a eu à mener une autre évaluation sur la base de laquelle on est arrivé à l'assistance alimentaire sous forme de modalité de transfert cash en faveur de 3588 ménages qui est composé de personnes déplacées, des retournées et les familles hôtes.
Aujourd'hui, vous venez de mettre fin à la première phase. Quel est l'essor de déplacer le bénéficiaire de cette première phase? Aujourd'hui, les problèmes persistent parce que les sites déplacés sont toujours visibles dans le Walendubindi. Est-ce que vous allez fermer les bras et c'est tout?
Le PAM va continuer l'assistance. Vous savez que l'assistance financée par le Pôle France est pour une période de 5 mois. Mais après cela, bien sûr, on va mener une autre évaluation pour voir est-ce que les gens sont toujours en besoin ou bien quel sera leur sort. S'il s'avère que les gens sont toujours en sécurité alimentaire, bien sûr, on va continuer l'assistance, soit sur le financement propre du PAM ou bien à travers d'autres bailleurs.
La coordination des affaires humanitaires, Annie Toury, a publié un rapport pour parler des plus de 6 sites de déplacés qui ont été victimes d'attaques de groupes armés. présumé aux miliciens de la FRPI. Est-ce que vous ne pensez pas que cette assistance s'est été parmi les causes de toutes ces attaques?
Non, je voudrais démentir ce sentiment, parce que si vous faites bien l'analyse, même au mois de janvier, février, où le PAM n'était pas présent en train d'assister les gens de Walendubindi, la recrudescence des attaques a été constatée et pourtant le PAM n'était pas présent dans la zone. Ce que je voudrais juste dire aussi, c'est pas l'assistance qui mène l'insécurité. La recrudescence des attaques est due au fait que le leader de FRPI est mis au cachot au niveau de Kinshasa. Jusqu'à là, il n'y a pas eu un mécanisme de sortie par laquelle traiter les éléments de FRPI. Raison pour laquelle il y a la recrudescence des attaques, c'est parmi les analyses qui ont été faites. Et si vous constatez dans les 4 sites où nous avons mené l'assistance, jusque-là, on n'a pas eu de problème de protection. Et c'est quelque chose que le PAM et ses partenaires veillent à ce que la question de la protection est assurée pour nos bénéficiaires.
Pour la phase qui vient de se terminer, ça fait combien de temps?
Ça a duré 7 jours.
Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées lors de la distribution?
Bien sûr, il y a les défis. Quand on donne l'assistance, ça peut être souffert. Forme de vivre, ça peut être sous forme de cash. Il y a toujours des défis qu'on constate dans des zones opérationnelles. Et c'est quelque chose qu'on essaye avec nos partenaires, y compris la brigade de l'étourie de la MONUSCO, pour essayer de renforcer des mesures de sécurité, bien sûr, à travers aussi les partenaires comme l'étourie brigade de la MONUSCO, pour renforcer les zones de distribution, n'est-ce pas, et faire de sorte que les bénéficiaires ne connaissent pas les problèmes de protection, comme pour la distribution de vivres, comme pour la distribution du cash. Et ce que je voudrais juste signaler encore une fois de plus, c'est que dans les zones où on a eu à mener cette activité jusqu'à là, on ne nous a pas fait part de problèmes de protection liés à l'assistance.
Et pourquoi pas m'avait envisagé changer l'assistance à vivre à l'assistance à cash?
C'est pas question de changer l'assistance en vivre en cash. C'est-à-dire, pour le PAM, on a deux modalités de transfert de notre assistance sécurité alimentaire. Ça peut être sous forme de vivre ou bien, comme ça peut être sous forme de cash ou bien bon d'achat. C'est-à-dire, quand on avait mis en œuvre cette activité, on avait pensé aussi aux particularités parce que souvent, il y a des bénéficiaires, ils ont leurs habitudes alimentaires, n'est-ce pas, pour lequel on ne peut pas satisfaire à ses besoins, et aussi le fait qu'il y a d'autres besoins à part les vivres. Les gens ont besoin peut-être de varier les régimes alimentaires, n'est-ce pas, et aussi faire de sorte qu'ils puissent subvenir à d'autres besoins, par exemple la santé, les frais de scolarité, les habits, ainsi de suite.
Est-ce que la deuxième phase est déjà lancée ou bien c'est en cours?
La deuxième phase est en cours. On est en train de préparer le terrain pour qu'on puisse donner l'assistance pour la deuxième phase.
Un message à tous les déplacés qui vous écoutent?
À tous les déplacés, on les encourageait vraiment de mettre à profit l'assistance qu'on est en train de leur donner, c'est-à-dire pour subvenir à leurs besoins alimentaires, aussi bien que d'autres besoins dont les familles, dont les ménages retournés, déplacés et familles hautes ont à besoin. De mettre en valeur l'assistance qu'on leur donne en s'assurant que l'objectif primordial du projet est réalisé.
Madame Judith Toulard, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Au Sud Kivu, la section des affaires civiles de la MONUSCO Bukavu vient d'organiser un atelier de 3 jours sur l'analyse des risques liés aux conflits communautaires. Cet atelier avait comme objectif la mise à jour d'une cartographie des conflits qui menacent la paix dans la province. Des détails avec Michel Chirimwami.
L'atelier qui s'est clôturé vendredi dernier avait comme objectif principal la mise à jour d'une cartographie des conflits qui menacent la paix dans la province du Sud Kivu, l'identification des zones prioritaires d'intervention afin de ne pas disperser les ressources ainsi que la production d'un document de référence à mettre à la disposition des acteurs humanitaires, étatiques et de la société civile susceptibles de les aider à bien guider leur action était aussi parmi les objectifs de ce forum. Au cours de l'atelier, les participants devaient ainsi identifier les conflits qui persistent dans les 6 territoires de la province, à savoir Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Fizi et bien entendu dans la ville de Bukavu. Ces participants étaient les acteurs humanitaires, les responsables étatiques et les délégués de la société civile locale. À travers cet atelier, la section des affaires civiles de la MONUSCO Bukavu voulait ainsi établir une cartographie qui lui permettra de constater si la liste des conflits, une centaine, répertoriée l'année dernière par les mêmes acteurs, est toujours d'actualité. Cette cartographie permettra à la MONUSCO de mener un plaidoyer au niveau de la communauté internationale dans le but de promouvoir la stabilisation dans la province du Sud Kivu. Bukavu, Michel Tirimwami, Magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
La question de dimanche concerne le FRPI et ses exactions en territoire d'Irumu. Suivez.
Sylvain Kapuya pour le compte de la République. Monsieur Prosper Basse, vous venez de dire que après l'arrestation du chef du FPRI, il y a quelques troubles du côté d'Irumu et autres. Dans votre langage, c'est comme si après l'arrestation de leur chef, ces gens-là sont restés comme ça. On ne peut pas aussi les traquer pour mettre fin à tout ce qui se passe là-bas.
Non, je pense que vous avez mal interprété mes propos, c'est pas ce que je veux dire. Je voulais mettre en exergue le fait que lorsqu'à la tête d'un groupe armé, le chef légitime n'est plus là, il est évident qu'il y a une forme de dispersion des forces, ce qui fait que aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur. Parce que lorsque Kwabra Matata a été arrêté, ses adjoints immédiats qui étaient Mbadou Adirodou et au Rolex, tous les deux qui étaient des adjoints, aujourd'hui ont été absents. Donc, les troupes qui étaient concentrées initialement à Aveba pour aller vers un processus de reddition comme demandé par le FRPI, ces troupes-là se sont dispersées et sont allées vers Erengeti, où aujourd'hui la plupart des exactions que nous enregistrons de manière quotidienne sont commises par les éléments de FRPI parce qu'il n'y a plus une unité de commandement.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Gwendoline Akoum, je suis célibataire, j'ai un master, je pense qu'ici au Congo c'est l'équivalent de la licence, c'est un master en interprétation obtenu dans une école camerounaise, c'est l'école supérieure des traducteurs et des interprètes. Au sein de la MONUSCO, je suis assistante de M. Martin Kobler, le représentant spécial, depuis pratiquement un an maintenant, donc depuis avril de 2014. Mais bien sûr, j'ai commencé à travailler dans la mission depuis janvier 2012. Et mes tâches quotidiennes, disons que je passe beaucoup plus de temps dans des réunions. Je la commence le matin, quand j'arrive au bureau très tôt le matin, peut-être à 8h10 par là. 20 minutes après, en général, j'ai une réunion qui dure une heure environ. En fait, mes responsabilités, c'est prendre des notes, faire un rapport. Donc je passe quasiment toute la matinée à faire des rapports. Et à midi, bien sûr, je vais déjeuner, je reviens au bureau une heure ou 40 minutes après. Je continue ma journée jusqu'à la fin. Donc, je passe pratiquement toute ma journée au bureau. Je rentre peut-être vers 20h ou 21h. Bien sûr, toute fatiguée et je dois chercher peut-être à manger. Et puis après, il faut se coucher tôt aussi parce qu'il faut que je parte du bureau tôt le lendemain. Mon parcours à la MONUSCO, je suis arrivée, j'ai été recrutée comme volontaire traducteur-interprète. Je suis interprète de formation. Bien avant la MONUSCO, je travaillais au Cameroun. Je suis camerounaise de nationalité. Je travaillais dans un cabinet de traduction d'interprétation. Là, je crois que j'ai passé peut-être 2 ans dans ce cabinet. Là, et bien auparavant, j'avais travaillé pour un cabinet d'intermédiation financière, tout juste après avoir reçu ma licence au Cameroun, et qui est l'équivalent du graduat ici. Mon temps libre, déjà, j'ai pas beaucoup de temps libre. C'est pas évident, travaillant dans le front office. Le temps libre, disons, c'est dimanche peut-être qui est ma journée libre, parce que en général, je travaille jusqu'au samedi. Et le dimanche, je passe beaucoup plus de temps à l'église et je rentre à la maison et j'essaye de cuisiner un peu, j'essaye un peu de préparer la semaine qui suit. Et mes préférences en matière de musique, j'aime beaucoup la musique religieuse. J'aime aussi la musique latino parce que j'aime beaucoup l'espagnol également. En matière de sport, je sais que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup le tennis, mais j'ai pas eu l'occasion d'apprendre. C'est vrai que j'ai fait, parfois j'allais dans les cours et je regardais les gens jouer, mais j'ai pas pratiqué le sport en tant que tel, mais j'ai beaucoup aimé le tennis quand j'étais plus jeune. Je dirais pas que j'ai un mes favoris, qu'il y a un plat que j'aime, mais en général, je mange simple, je mange africain. Je préfère vraiment faire mes plats moi-même ou manger vraiment ce qui est cuisiné à la maison. Perspective d'avenir, disons que j'ai rien de fixé pour le moment, mais j'aimerais bien passer même une année sabbatique à ne rien faire, à juste me reposer et peut-être à prendre l'élan avant de voir ce que je fais pour l'avenir. Je voulais dire coucou aux auditeurs de Radio Okapi. Vraiment, je remercie déjà les techniciens, le staff de la Radio Okapi qui nous gardent informés et qui nous apportent les nouvelles de la RDC. Et donc, je voudrais dire bonne journée aux auditeurs de Radio Okapi et restez à l'écoute de Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Notez dans votre agenda que du 27 avril au 2 mai prochain se tiendront à Kinshasa les états généraux de la justice, un forum organisé par le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, est impliqué dans la tenue de ces travaux dans le cadre de son programme d'appui à la réforme du système judiciaire de la RDC. C'est la fin de ce numéro de magazine des Nations Unies, édition supervisée par Ben Kabamba avec la coordination de Jean-Pierre Elali Ikoko. Honoré Missenga était au reportage, Thérèse Bassoubi c'est mon nom, à la technique Willem Lungamba. Ce dimanche, vous pouvez donc écouter cette émission sur le site de Radio Okapi, radiokapi.net. Rendez-vous donc le dimanche prochain pour une nouvelle émission des magazines des Nations Unies. Bon dimanche à tous.